Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport avec David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Attention les amis, les grandes gueules du sport sont écoutées dans le monde entier. Hein. Je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, Sarah Pitkowski a dit tout ce qu'elle pensait de Nick Kyrgios, ce joueur de tennis australien. Et ça a fait le tour du monde. Même Nick Kyrgios a répondu. Bon, ouais. Visiblement, il a dit qu'il connaissait pas beaucoup Sarah.
C'est bizarre.
mais attention.
On appelle ça The Clash.
Attention à ce que vous dites. Dis pas n'importe quoi sur Michael Jordan.
Dis pas n'importe quoi sur Jacques Anquetil. David, dis pas n'importe quoi sur David.
Parce que la star, c'est lui.
Christophe, dis pas n'importe quoi sur Mbappé.
Je dis n'importe quoi sur tout, moi.
Bah voilà, ça, c'est une super résolution pour des exercices.
Ouais. Ça, c'est le Christophe qu'on aime.
Mais c'est pas une résolution, c'est ce qu'il fait depuis toujours.
C'est le Christophe qu'on aime.
C'est ma nature.
En même temps, c'était le mieux placé en plus pour parler du sujet de Mbappé. C'est ce qu'ils prennent du risque de le faire revenir. Parce que lui, il n'a pas pris de risque cet été pour revenir.
Il a pris son temps.
Il a pas anticipé son retour.
Après sa fracture en poignet.
J'ai dénoncé mon arrêt de travail pour revenir 3 semaines avant.
Est-ce qu'il y avait un risque, tu vois, tu sais que
c'est très compliqué quand t'as un arrêt de travail qui dure un certain temps pour essayer
de revenir.
Ils veulent pas. Il y a personne qui veut que tu reprennes le boulot.
Par contre, les grandes gueules, c'est pendant la semaine avec Alain Marchal et Olivier Truchot. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Tu iras pour parler des arrêts maladie, peut-être du lundi au vendredi.
Est-ce qu'on pourrait amener une boîte de Kleenex à Christophe, s'il vous plaît?
Les grandes gueules du sport, les amis, vous pouvez retrouver évidemment la première heure en podcast sur toutes les plateformes. En fin d'émission, je vous rappelle, vous participez au jeu avec vos GG. Remportez aujourd'hui une enceinte radio portable Bluetooth de Lexon. Pour gagner votre enceinte Lexon, vous appelez le 3216, touche 4, vous envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Je vous rappelle qu'on va vivre le ski dans un instant. Hein. Ski alpin, la première manche du slalom à Delboden avec Léna Marjac. On attend Clément Noël notamment, c'est à 10h30. Ça me permet de vous dire que le Super G fan de Zorensi
est annulé
exactement en raison des mauvaises conditions. Hier, l'Insevon a gagné la descente et mon niveau d'autrichien est toujours pas au top en 2026. Allez les amis, on va reparler tennis. Les stars pourront moins jouer en 2026, vous savez.
RMC, le ring des GG.
Ils ne viendront pas pour l'argent. En tout cas, pas les meilleurs.
Tennis Gallery Sautai.
Le calendrier du tennis est très serré. J'ai joué beaucoup de matchs ces derniers temps avec Roland Garros, Wimbledon.
Raphaël Nadal versus Carlos Alcaraz.
Mais t'es pas dingue. Le pognon est là, il n'y a plus qu'à l'engourdir.
And after day one of the Six Kings Slam, six becomes four. And what a four they are. The top four players in the world.
C'est de l'argent que vous voulez. Ne bougez pas. Je vais vous en chercher.
Two best players on the planet will tilt for the $6 million prize money check at the Six Kings Slam.
Une seule chose compte, le pognon.
Oula, 5, 4, 3, 2, 1. Une seule chose compte, le pognon. Voilà, je reprenais la dernière phrase. J'aurais peut-être pas dû le faire.
En fait, c'était le français le problème.
C'était peut-être moi, le présentateur. Les joueurs.
Je n'en pense en rien du tout, mais ça va aller chez Aiguin.
C'est le journal moyen de Super Moscato Show. Christophe n'est là que pour régler ses comptes,
pour envoyer
les autres dans Super Moscato Show.
C'est les tontons flingueurs, en fait.
C'est ça. On est sur
C'est comme Denis, l'archétype pour faire ce genre.
Depuis ce matin, on est sur un individu passif-agressif, je dirais.
Oui, c'est
comme ça que je définirais. Les joueurs de tennis ont été entendus dès cette année. L'ATP, vous savez, c'est les patrons du circuit, a annoncé que les meilleurs joueurs, les 30 premiers du classement, n'auront désormais que 18 tournois obligatoires au lieu de 19. Waouh! Où ils ne seront tenus de disputer au minimum que 4 tournois de la catégorie ATP 500 contre 5 jusqu'à présent. Alors, ça semble peut-être qu'un détail pour vous, mais alors que la FIFA, la NBA ou World Rugby rajoutent des matchs aux joueurs malgré les plaintes, le tennis a peut-être écouté, tout simplement. Certainement une bonne chose pour les Alcaraz ou Sinner qui, tout de même, hier, disputaient une rencontre exhibition en Corée du Sud à $2 million, pour le gagnant. Les GG, je vous pose la question ce matin. L'ATP réduit le nombre de tournois obligatoires pour les meilleur. Est-ce que c'est un bon signal ou est-ce que c'est dérangeant? Vous me dites bon signal, David Douillet, Julien Beneteau. Plutôt dérangeant pour Christophe et Frédéric Weiss, qui est ici présent. Salut Frédéric.
D'accord sur tous les débats quand même. Ça.
Mais c'est très surprenant. Ça, tu vas pas bien ce matin, j'ai l'impression vraiment, Christophe. Tu vas pas bien.
Tu dois avoir une influence sur moi. Tu me files tes miasmes et tu me files tes idées. Je vais finir comme toi.
On vous a détraqué.
Je te le souhaite, Christophe. Tu as progressé enfin.
On vous attend au 32-16. La voix du tennis nous rejoint avant de s'envoler pour l'Open d'Australie. Bonjour, Eric Salio.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ravis de vous retrouver en cette nouvelle année.
C'est vrai,
t'as bien débuté.
Meilleur vœu.
Je te trouve affûté.
Oui. Une petite gastro.
Ah, bah super.
Sympa, on connaît tout.
Voilà. On vous souhaite à tous un très bon petit déjeuner ce matin. Évidemment, si vous nous écoutez.
La fameuse coulante.
Très bien. Les gars, allez-y, c'est la grande classe.
C'est bon, on a perdu tout le monde.
C'est la grande classe. On y va. Non, on n'y va pas. On arrête.
Moi, j'y vais.
Eric, salut.
Excusez-moi, j'ai une urgence.
Les joueurs. Vous êtes insupportable.
Il n'y a aucune autorité, ce Georges.
Les joueurs de tennis.
Oui.
Ils ont montré qu'ils étaient plus forts que l'ATP, Eric.
C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Disons que l'ATP a entendu les plaintes des joueurs qui n'adhèrent pas au nouveau format des Masters 1000 de Madrid, Rome, Toronto et Cincinnati, qui sont étendus sur 12 jours, vous le savez, mais qui peuvent vous bloquer pendant 15 jours. Et puis une journée de repos, et Julien peut en témoigner, dans un tournoi, ça n'a rien à voir avec une décompression dans votre domicile habituel. Les joueurs de tennis, j'aime à le rappeler, sont les sportifs qui dorment le moins dans leur lit.
Les pauvres.
Oui. Alors l'ATP lâche du lest, oui, mais c'est dérisoire.
Ouais.
Et puis Gaudenzi, le patron de l'ATP, il a un bilan en or dont il est très fier. Écoutez ça, ce sont des chiffres stupéfiants. En 2025, 88 joueurs ont amassé plus $1 million de gains.
Stupéfiant.
Le système de bonus accordé aux joueurs qui brillent en Masters 1000 fait tourner les têtes. Vous vous souvenez de Valentin Vacherot ?
Bien sûr.
Grâce à son parcours à Shanghai et à son parcours aussi à la Défense.
Le Monégasque,
il a reçu une prime supplémentaire de 418 111 euros. Donc ça fait tourner les têtes. Alors vous allez me dire, ce petit changement, ça ouvre quand même la voie peut-être aux exhibitions. Et ça, c'est peut-être
exactement.
Voilà.
Exactement.
Je vous l'amène sur un plateau.
Oui, évidemment.
C'est dérangeant, Fred.
Mais moi, je trouve ça dérangeant parce que effectivement, sur le papier, c'est magnifique de se dire enfin une ligue qui se dit on va essayer de prendre soin des athlètes, etc. Sauf qu'on a plus de l'extérieur. Hein, on a cette impression de se dire les athlètes ont gagné. Ils vont pouvoir faire plus d'exhibitions et en fait moi ce que j'aurais aimé c'est que ça soit corrélé, les deux soient corrélés, c'est-à-dire que tu joues moins de matchs obligatoires mais t'as pas le droit de faire plus d'exhibitions. Et dans ce cas-là oui, là c'était hyper intéressant et lui là ça respectait le truc. Là en fait, c'est donner du repos pour des gens qui vont faire des exhibitions pendant ce temps-là. Donc ça n'a aucun intérêt et on a l'impression que les athlètes ont gagné en fait dans leur bras de fer.
David,
je sais pas ce que tu en penses.
Une exhibition, c'est pas une vraie compète quoi. Tu vois, c'est plus cool. Donc
c'est mieux payé surtout.
C'est plus lucratif. Mais je trouve que c'est alléger parce que il y a la fatigue physique, etc., mais il y a la fatigue mentale, la pression d'être toujours sur le fil du rasoir dans des grands tournois. C'est pas évident de dévisser un petit peu, de lâcher un petit peu de pression, même si les types vont gagner un peu leur vie à droite à gauche en exhibition, sans se donner à. Parce que dans une exhibition, ils se donnent pas au max, c'est évident. C'est
mais ils se déplacent quand même, ils ont quand même les conditions de déplacement, de match, alors que ils prônent le fait qu'il faille se reposer plus. En fait, je trouve que c'est pas très cohérent.
C'est contradictoire, peut-être.
Ouais, mais, moi, je pense que c'est plus un problème de mental, de pression mentale et de fatigue mentale plutôt que de fatigue physique. Franchement, quand t'es jeune, la fatigue physique, tu te déplaces et tout, t'es dans un rythme. Donc ce rythme-là, tu l'as, t'es habitué, tu le fais chaque année, etc. Ça match. En revanche, lorsque t'as une pression mentale sur des pour les leaders, les numéros 1 à 10 sur des grands tournois, ça te lamine, quoi, ça te broie. Donc le fait qu'ils s'amusent entre deux sur une exhibition et qu'ils gagnent un peu de sous, franchement, moi je serais à leur place, je le ferais. Mmh. Et ça me permettrait de respirer un peu.
L'ATP réduit le nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs. Bon signal ou dérangeant?
Moi j'ai dit bon signal, mais j'ai dit aussi que c'était inefficace, dérisoire. C'est de la communication. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça va rien changer du tout pour les meilleurs. Les meilleurs ne jouent pas beaucoup de tournois. Alcaraz, il a joué 16 tournois cette année en 2025.
C'est pas beaucoup.
Il a l'obligation d'en jouer combien?
Les grands chelems,
4, 8 Masters 1012, et il avait l'obligation de jouer 5500 ou 4500 pour prendre l'intégralité du bonus.
19 tournois en tout.
Donc c'était 17 ou 18. Et en fait, sur comment dire,
le cas, c'est que ces gars-là, ils vont souvent très loin dans les tournois en plus.
C'est le nombre de matchs, c'est.
Et c'est pour ça qu'ils en font moins.
C'est, exactement, c'est le nombre de matchs qui est important. Il a fait 80 matchs, ça c'est un niveau important. Mais c'est là où le circuit ATP a complètement changé ces 20 dernières années, c'est que Alcaraz, donc je vous ai dit 16 tournois. J'ai pris 2-3 anciens numéro 1 mondiaux comme Alcaraz dans les années 2000, début des années 2000 et fin des années 90, Moya et Witt. Les mecs, ils jouaient 24, 25, 30 tournois une certaine année pour Moya, une vingtaine de tournois pour Hewitt parce que lui il était australien et qu'à un moment donné il faisait une impasse sur une partie de la saison pour rester un petit peu chez lui.
Donc, mais non, par obligation, moi ma question c'est, il les jouait par obligation ou il les jouait parce qu'ils avaient envie de les jouer? C'est un peu différent.
Les, les deux, il y avait des tournois qui étaient obligatoires et puis aussi le circuit était fait d'une certaine façon où ce qu'on appelle aujourd'hui les 250 qui ne servent plus à rien pour les meilleurs. À l'époque, les meilleurs, les plus grands, ils venaient dans ce qu'on appelle les 250.
Les 250, c'est les tournois de quatrième catégorie. Il y a les Grands Chelem, Masters 1000.
Voilà. On avait des Pete Sampras qui venaient au Grand Prix de Lyon et qui gagnaient le tournoi. On avait des Patrick Rafter, numéro 1 mondial, qui venaient au Grand Prix de Lyon. On avait des mecs qui venaient dans le top 2, top 3 mondial. Joko à Marseille, j'allais dire à l'Open 13 de Marseille, pour prendre que les tournois français. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de jouer parce qu'ils gagnent trop de points ATP et trop d'argent ailleurs. Avec les exhibitions. Donc en fait, le nombre, ce que disait David et ce que dit Eric, le gros problème de l'ATP et du calendrier, c'est ces Masters 1000 sur 12 jours. Et les joueurs, les meilleurs, alors il y a une compensation financière, mais les joueurs aujourd'hui, ils gueulent, c'est là-dessus. Parce qu'effectivement, la journée de repos, ils sont en tournoi. Ils sont à l'hôtel, ils vont s'entraîner, ils ne sont pas chez eux. Et ça a allongé énormément les saisons. Cet allongement des Masters 1000 et c'est un vrai comment dire, pas un vrai problème, mais c'est une différence énorme dans la vie du joueur de tennis. Dans les mecs ne sont plus jamais chez eux, mais plus jamais du tout. Là ils sont tous en Australie et ça va être la machine à laver, elle est partie. Tout le mois de janvier ils sont en Australie, en mois de février ils vont faire 2 ou 3 tournois aux Émirats Arabes, au mois de mars il y a les 2 Masters 1000 aux États-Unis, Indian Wells Miami, qui sont sur un mois. T'arrives début avril, la préparation sur terre battue, moi je l'ai fait. T'as l'impression d'avoir passé 5 jours chez toi. Ça fait 3 mois que la saison a commencé.
Non, mais c'est vrai que c'est la particularité du circuit, ça, hein, par rapport à d'autres sports. Bon, peut-être comparer un peu avec la NBA, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr.
Il y a beaucoup de déplacements.
Oui, mais tu fais quand même 42 matchs chez toi.
Ouais, t'as 42 matchs chez toi.
Ça change quand même.
Tu dors chez toi.
Les compétitions de Coupe du Monde de ski aussi, où t'es beaucoup.
Oui, mais ça dure que de novembre à mars.
Voilà, exactement.
Alors que nous, c'est de janvier à novembre. C'est ça qui est incroyable.
Chris, tu trouvais ça dérangeant que l'ATP.
Moi, je suis un peu sur la même ligne. Que Fred, j'avais l'impression qu'il nous invitait au bal des focus, c'est-à-dire que on vous supprime un tournoi, mais que comme ça, bah, tu vas pouvoir aller faire plus d'exhibitions. Effectivement, quand tu fais des exhibitions, c'est moins fatigant. Tout est pris en compte, ton billet d'avion, celui de ton coach, la bouffe, l'hôtel, c'est tout bénef. Et puis évidemment, des prize money qui sont incroyables. Et puis si tu perds, c'est pas grave. De toute façon, tu prends les sous. Donc forcément. Tu arrives dans ces exhibitions, bah, t'as moins la pression que si tu jouais un tournoi 500. Et je suis persuadé qu'avec la disparition, la non-obligation pour les joueurs de disputer ce tournoi 500, il y a d'autres promoteurs d'exhibitions qui vont jeter sur l'occasion.
Bah, ça a commencé. Là, il y a Alcaraz et Sinner, c'est un nouveau truc. Ils sont allés jouer en Corée du Sud, à Séoul. Ils ont fait un match entre eux. Ils ont pris 2 millions chacun. Et ça, c'est un nouveau. Eric.
Les exhibitions, ça a toujours existé, mais là,
oui, ouais, mais à une semaine du premier grand chelem de l'année.
Oui, ça c'est vrai, t'as raison.
Le Sampras Agassi, dans les années 90, jamais ils allaient faire une exhibition. Il y en avait un qui allait jouer le tournoi des Dalides, il y en a un qui se préparait. Les mecs, aujourd'hui, c'est vraiment au-dessus, c'est incroyable.
Eric, j'ai découvert ce matin, Tennis Australia a mis en ligne une petite vidéo de Sinner Alcaraz. On en déduit très facilement qu'ils ont fait Séoul, Melbourne.
En avion privé.
En avion privé.
Bien sûr.
Ils étaient dans le même avion.
Ouais.
Et une heure après, donc ils ont atterri à Melbourne, une heure après, ils s'entraînaient à Melbourne Park. Donc c'est des conditions de voyage extraordinaires.
Ils sont dans
donc,
le même fuseau horaire.
Et c'est dans le contrat.
Exactement.
Les agents disent, OK, mais vous nous arrangez des conditions de voyage.
Ils ont le même fuseau horaire, ils ont juste 8 heures de vol, ils sont dans un avion privé, ils dorment, ils arrivent à Melbourne, ils ne sentent même pas la fatigue.
Exactement.
Ils vont s'entraîner.
Mais ça m'intéresse de Clem sur WhatsApp 06 12 424 424. Il me dit, les joueurs de sport individuel ont plus de pouvoir. Je ne pense pas que ce soit faisable au foot ou en NBA. D'imposer comme ça peut-être des petits changements dans le.
Attention,
il y a beaucoup de pouvoir du côté de la NBA.
Mais par exemple, en NBA, où il y a beaucoup de discussions actuellement sur est-ce que la saison régulière à 82 matchs n'est pas trop importante et avec le rythme qu'il y a aujourd'hui. Ah oui, les blessures,
mais on en a parlé de ça. C'est la problématique aussi avec les sports américains, c'est qu'il y a des statistiques et les statistiques, si tu réduisais le nombre de matchs, seraient tronquées. Et donc forcément, ça rend fou les historiens de la NBA et du basket en général. Et donc forcément, c'est ça qui freine. Mais honnêtement, on a un syndicat qui est très puissant.
Ouais, par rapport au tennis, c'est quand même, on a l'impression que c'est le sport où les athlètes ont le plus de pouvoir sur
le tennis.
Ouais, c'est normal parce qu'ils sont indépendants.
Ils sont indépendants,
c'est des artisans. Ils font ce qu'ils veulent, donc ils sont pas tenus par, ils sont tenus par un règlement international du tennis mondial. Mais pour le reste, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils décident eux-mêmes de l'endroit où ils vont aller, même s'ils ont un cadre. Ce qui est pas le cas en NBA ou
pas le cas pour une équipe pro dans une ligue,
tu vois.
Il y a plein de tournois qui sont obligatoires. On décide pas où on va. Quand tu atteins un certain classement, tu es obligé d'aller jouer. Autrement, tu es sanctionné, pas financièrement.
Non, mais je suis d'accord.
Au niveau de ton classement. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi.
Tu choisis ton tournoi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais ton quota.
Verstappen, il n'est pas sanctionné au classement des pilotes s'il se dit ah bah tiens, je vais pas aller faire tel et tel Grand Prix.
Mais ça n'existe pas.
Il peut pas.
Non, mais.
Il n'a pas le choix.
Au tennis, tu joues pas un Masters 1000, tu joues pas tu prends zéro dans ton classement. C'est-à-dire que le tournoi te compte dans ton système de classement. C'est comme si tu avais fait premier tour. Donc c'est une vraie pénalité.
Pour le basket, c'est la même chose aussi, Fred. Si t'es obligé de
jouer un certain nombre de matchs, en plus pour la fin de saison, pour les trophées, t'es obligé d'avoir au moins 65 matchs.
Tiens, Lionel, fidèle auditeur de les grandes gueules du sport, nous appelle. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
Bonne année, meilleurs vœux Lionel.
Meilleurs vœux à tous et puis bonne santé pour Christophe, qui n'ait pas trop de blessures.
On s'inquiète, bah oui.
Il est un peu fragile, il a raison, il est fragile.
Je me remets au Kaiser
peu cher. Lionel, dérangeant ou un bon signal pour toi de voir l'ATP réduire le nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs?
Alors, bon signal que l'ATP soit à l'écoute des joueurs, mais très très dérangeant au niveau de l'éthique, parce que je pense que déjà, j'ai regardé un petit peu, ils ont le droit de sauter un ATP 500, qui jusqu'à preuve du contraire, se déroule toujours sur une semaine. Donc, ça change rien au problème des ATP 1000 sur une dizaine de jours.
Exactement.
Moi, franchement, je suis très dérangé par ça, parce que même si effectivement ils sont loin de chez eux, jusqu'à preuve du contraire, quand ils veulent devenir professionnels, ils découvrent pas la vie de tennisman. Donc, il y a des contraintes, mais je pense quand même que ce sont des. Surtout qu'en plus, ça concerne que les 30 meilleurs. Donc, c'est quand même les privilégiés de ce sport. Hein. On parle pas de ceux qui galèrent, qui partagent les coachs. Moi, mais je
parce
pense
que c'est les meilleurs. On parle pas de privilégiés. Ils ont gagné leur place. Ils ont pas été nommés dans les 30 premiers. Ben, c'est pas bien de dire qu'ils sont privilégiés.
Quand on est dans les 30 meilleurs, on fait partie des privilégiés de ce sport.
Ben oui, mais tu l'as gagné. Ils se sont battus pour ça.
Non, mais il n'y a pas de problème, David. Le souci, c'est que ceux qui galèrent et qui n'arrivent pas à joindre les. Parce qu'il y en a, ils disputent les points ATP. Il y en a d'autres
qui sont moins bons.
Non, bah oui, mais ils essayent de vivre. Donc du coup, c'est un sport très élitiste. Alors, on se fout de ceux qui galèrent.
Bah, c'est le principe du sport. Hein.
Ok. Bah, si c'est ton point de vue, je suis surpris. Maintenant, il y a un autre détail.
Oui, mais sinon, il faut bien un numéro un. Il faut bien un numéro.
Tu vois, il faut bien marquer l'histoire, David.
C'est le principe de l'entonnoir.
Je conteste pas. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont là-haut, ils disent bon, maintenant, c'est moi qui vais décider pour tout le monde. Parce qu'en fait, ils imposent à tous. Après, il y a un autre détail. Moi, je suis un nostalgique des finales de Master 1000 en 5-7. Enfin, en 3-7 gagnants. Ils ont enlevé ça. Quand vous avez une finale où les gens payent très cher et le gars, il fait souvent un sens unique, sauf qu'on est un signeur Alcaraz, bon, on n'arrête pas de diminuer. Moi, je pense que c'est une question de maturité. D'ailleurs, c'était un gros souci. Les gars, ils vont faire des exhibitions pour gagner encore plus de fric et après, ils se plaignent qu'ils sont trop fatigués.
Ouais, c'est un discours, en tout cas, effectivement, de voir les exhibitions. Il y a peut-être aussi le fait que les exhibitions aujourd'hui sont beaucoup plus visibles, parce qu'elles vont sur les plateformes, Netflix.
Non, mais la fameuse exhibition en Arabie Saoudite, on peut pas comparer le
Six King Slam, souvenez-vous. Il y avait les
tu joues 12 jours à Shanghai et cette année à Shanghai. Parce que je dis ça parce que c'était juste après Shanghai, le Masters 1000. Cette année à Shanghai, il faisait 30 degrés, 80% d'humidité. T'as 6 matchs ou 7 matchs si t'as un bail pour gagner le tournoi. C'est pas pareil que quand tu joues 2 matchs avec un format réduit en 3 jours. Ça dure une heure et quart le match.
Tu peux pas comparer la fatigue. Je suis complètement d'accord avec toi.
Sauf qu'après, on dirait de
l'hypocrisie et qu'on vous laisse justement aller faire un peu vos trucs, vos ménages, si vous passez l'expression ailleurs, pour gagner de l'argent.
D'ailleurs, à ce moment-là, Alcaraz il a fait, excusez-moi l'expression, il a fait un beau bras d'honneur à l'ATP à ce moment-là. Il va faire un 500 à Tokyo, il gagne, puisqu'en plus à Tokyo, il a dû prendre une énorme garantie pour y aller.
Et il va pas au...
Il va pas au Masters de Shanghai. Le calendrier est trop chargé. Et deux jours après la finale, il en a rabissé pour jouer là.
On en avait parlé ici.
Et encore des sanctions si tu disputes pas les matchs, c'est des sanctions financières.
Masters 1000, tu as le droit d'en zapper un dans l'année, mais après c'est les sanctions comment dire au niveau du classement.
Au niveau du classement, on s'en fout.
Après moi je comprends les gars essayent de gagner de l'argent, optimiser leur carrière. La carrière elle est pas éternelle. Moi je serai à leur place, je ferai pareil. Mais surtout j'essaierai de respecter un équilibre entre ma fatigue et ce que je dois faire dans les grands tournois pour maintenir mon niveau et ma place au ranking mondial. C'est ça en fait le vrai jeu de cette affaire-là.
On remercie Lionel de nous avoir appelé au 32-16 pour participer au débat. L'ATP réduit le nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs. Bon signal ou dérangeant? Et ben on n'a pas bougé. 68% bon signal pour vous. Donc David et Bennett, c'est vous qui avez réussi à convaincre les auditeurs de rester. En tout cas,
t'as convaincu quoi si ça n'a pas bougé?
Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont sur devant.
T'es pas bon dans les sondages, quoi.
Mais t'as rien fait.
Le sondage, c'est pas son truc.
T'as pas renversé le truc, t'as pas renversé la table.
On a gagné, c'est pas grave.
Je peux le faire encore, renverser la table.
Fred, c'est pas grave.
Vas-y. Merci.
Accepte la défaite.
Merci, Eric Salio, d'avoir été avec nous ce matin.
Pour tous les détails de ta condition physique.
Bon voyage en Australie. Évidemment, on t'écoutera pour l'Open d'Australie dans les grandes gueules du sport. Allez, on revient dans un instant. Captain Douillet va prendre le bras. Il va nous parler du rôle de porte-drapeau alors qu'il y a des candidats pour les JO d'hiver. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Fred Weiss et Julien Beneteau qui viennent de se rendre compte pendant la pause qu'ils ne se suivaient pas sur Instagram. C'est ça la vie.
Et du coup,
la vie
Fred
groupe.
Je suis mon devenu 5 000e follower. C'est beau ça, Georges, il faut que tu lances notre carrière d'influenceur. C'est ça, d'ici la fin de l'émission, on monte.
Suivez Julien Beneteau et Fred Weiss, deux Olympiens. David Douillet, il n'a pas besoin, il est déjà à 3 milliards de followers.
Ah bah ouais. Il a tous les Japonais,
c'est bien.
Non, il a tous les Japonais, il leur a tellement fait mal.
Bah oui, il est rentré dans leur tête.
Exactement.
Dans un instant, les GG remontent le son.
Les plus de 100 kilos du monde.
Tu me suis, Fred?
Je crois. S'il y a tous les plus de 100 kilos, logiquement, je suis dedans.
Je sais pas, toutes les recettes du poulet de Brest sur son Instagram.
Il est platinium, Fred.
Du monde, tu vois.
Dans un instant, les GG remontent le temps. Il y a 10 ans, Zizou, entraîné en pro pour la première fois. A-t-il encore à prouver, Zizou? Évidemment, on va se poser la question. Mais d'abord, David Douillet prend le brassard de capitaine des GG.
Oh. RMC, Captain Douillet met le brassard.
Cette semaine, on a pris les candidats pour être porte-drapeau de la France aux JO et Jeux paralympiques d'hiver à Milan Cortina. Ils ou elles sont 11 pour les JO. Dans mon amour, on retrouve deux femmes, les snowboardeuses Julia Pereira, Chloé Trespeuch. 5 hommes, les patineurs artistiques Kevin Emoz, Guillaume Cizeron et Adam Siaouimfa. Les skieurs alpins Victor Mufajandé et Clément Noël. Pour les paras, Cécile Hernandez, qu'on connaît très bien ici, la seule candidate. Lou Radagan, Jordan Broisin et Maxime Montagioni. Ce concurrence également. On connaîtra les porteurs de drapeau le 30 janvier prochain. David, tu voulais nous prévenir, peut-être prévenir les candidats ce matin, et pour qu'on comprenne bien aussi les auditeurs et auditrices, porter le drapeau comme tu l'as fait à Sydney en 2000, c'est pas forcément de tout repos.
Ben non, parce que être porte-drapeau, c'est pas simplement être à la tête d'une délégation, même si c'est un immense honneur. T'as tous les athlètes qui te suivent derrière. C'est pas simplement devenir pendant l'espace d'un petit temps le visage de tout un pays, de tout le sport national, de toutes les disciplines. C'est aussi répondre à beaucoup de sollicitations. Avant, pendant, c'est aussi digérer cet honneur, cet immense honneur qui t'est accordé, parce que c'est une reconnaissance de tes pairs. Et ça, c'est pas évident, parce que ce qui est pas évident, c'est que tu as aussi ta compète qui est là, qui est présente. Oui. Et en fait, tu te rends compte quand t'es nommé porte-drapeau que tu vas avoir deux grands événements à gérer. Tu dois gérer la cérémonie d'ouverture et tout ce que ça implique, les sollicitations médiatiques,
parce qu'elles sont nombreuses.
La fatigue que ça va incomber, parce que elles sont très nombreuses. Elles sont pas nombreuses, elles sont très nombreuses. Et tu dois aussi rester concentré sur ta compétition. Ne pas perdre le fil, ne pas perdre ta concentration, ne pas perdre ta routine qui va t'amener jusque au démarrage de ta compétition, avec une pression supplémentaire qui est celle du t'es porte-drapeau, ça sous-entend que on t'attend pour la breloque. Oui. On attend du résultat. Parce que quand t'es porte-drapeau, ça sous-entend que t'en as eu avant et que tu dois continuer à emmener l'équipe de France sur la même pente ascendante que celle de ta carrière.
Ça te rappelle ta responsabilité sportive aussi.
Voilà. Donc c'est très en réalité, c'est pas forcément un cadeau, c'est un super cadeau, mais il peut être un petit peu empoisonné. Voilà.
Prenez ça en considération, les candidats au porte-drapeau, on va en parler dans quelques instants, c'est des responsabilités aussi, on a interrogé sur un petit peu tout, hein. Tu le disais, il y a des sollicitations médiatiques qui sont énormes, mais avant d'en reparler avec vous les amis, je vous propose qu'on file à Adelboden, ou en Suisse, où le slalom s'était lancé il y a quelques instants, le slalom masculin. Léna Marjac est au commentaire pour nous, salut Léna, on est à 26 jours des JO d'hiver et on attend nos Français dans quelques instants sur la piste.
Oui, on s'approche des Jeux Olympiques, effectivement. C'est d'ailleurs l'un des derniers slaloms avant, c'est le dernier slalom avant les. Alors, pas du tout.
Il y aura
Kitzbühel Wengen, effectivement. J'ai confondu avec le géant d'hier, pardon, excusez-moi. Hier, c'était effectivement le dernier géant. Là, il reste encore des épreuves pour nos slalomeurs qui rêvent d'être la meilleure nation mondiale dans cette discipline, dans le slalom. Aujourd'hui, ils seront 6 au départ, notamment Clément Noël, qu'on va voir dans quelques instants après le passage du Brésilien Lucas Pinheiro Breton. Pour l'instant, ce sont deux Norvégiens qui sont en tête, Henrik Kristoffersen juste devant Atli McGrath, et donc 6 Français au départ, Clément Noël, Paco Rassa qui reste notamment sur un podium à Madonna, c'était mercredi, il a terminé 3e, lui qui a remporté aussi sa première Coupe du Monde à Gourgueul cette saison. On aura également Steven Amier, Dossardis, Victor Muffat, Jandé, vous en avez parlé il y a quelques instants puisqu'il est aussi candidat pour être porte-drapeau, Hugo Desgrippes, Auguste Holnet et Antoine Azolin. Ce sera dans quelques instants donc pour nos Français avec Clément Noël, Dossard 7. On attend que le Brésilien Lucas Pinheiro Breton arrive en bas.
J-26 avant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. RMC se met déjà en mode olympique. RMC radio officielle des JO de Milan-Cortina. Christophe Cessieux sera sur place, évidemment. Vous ne raterez rien sur notre antenne. Et c'est peut-être l'une de nos meilleures chances de médaille qui va s'élancer dans quelques instants à Adelboden sur le slalom. L'homme qui peut être champion olympique en back-to-back, c'est-à-dire il a été à Pékin, il veut garder son titre à Milan, marquer peut-être l'histoire, l'aimerait Fred. Et on va l'avoir au départ dans quelques instants, Léna.
Oui, dans quelques instants, on va voir Clément Noël, notre champion olympique. Il est tenant du titre aussi ici à Adelboden. Il a remporté le slalom de Manoda mercredi, sa première victoire en Coupe du Monde cette saison. Il est en forme, notre Clément Noël, le skieur de Val d'Isère. Et aujourd'hui, il va s'élancer sur cette piste d'Adelboden qu'il apprécie, qu'il aime beaucoup avec ce mur final et notamment cette exigence de piste. C'est ce qu'il aime dans des conditions glace, la neige est glace et les conditions sont parfaites aujourd'hui. C'est pas comme hier, il n'y a pas trop de brouillard et notamment il y a le soleil qui perce par quelques instants. On espère que ça va sourire à Clément Noël. C'est parti pour le Français. 3 petits centièmes de retard sur Henrik Kristoffersen, le Norvégien qui est pour l'instant en tête de ce slalom d'Adelboden. Pour l'instant, Clément fait un haut de parcours qui est plutôt bon. Il va falloir garder cette vitesse avant l'entrée dans ce mur. Allez Clément, la vitesse a l'air d'être un petit peu moins bonne qu'au début. On va voir au deuxième temps intermédiaire. 3 dixièmes de retard pour l'instant. Il est 3e provisoire de cette première manche, le Français, le skieur de Val d'Isère, et il va arriver dans ce mur assez impressionnant devant toute cette foule ici en Suisse à Adelboden. Attention pour Clément Noël, là, il a sorti un petit peu large sur cette porte, mais il garde toujours 3 dixièmes de retard sur cette première manche. Il est toujours 3e provisoire, c'est pour l'instant très bien ce qu'il fait. Il faut rester placé. Il faut aller jusqu'au bout, et si on peut réussir à allumer un petit peu de verre à la fin, ce serait magnifique pour Clément Noël qui passe la ligne d'arrivée avec 4 dixièmes de retard. Il est 4e provisoire. C'est toujours donc Henrik Kristoffersen qui est en tête de cette première manche.
Allez, il est dans la bagarre quand même, hein, Clément Noël, pour la deuxième manche tout à l'heure, pour aller décrocher un podium et pourquoi pas aller chercher la victoire. Hein. Quand les Français passent à Adelboden, il y a du plastique Bertrand, ça plane pour moi, hein, qui passe dans la sono. Donc évidemment, ça doit peut-être les encourager. Je ne sais pas s'ils l'entendent avec leur casque. J'ai quand même un petit doute. Allez, on enchaîne, Léna Marjac, on reste à Adelboden parce que c'est Paco Rassa maintenant qui est au départ.
Et oui, c'est aussi la nouvelle tête d'affiche du slalom français. Paco Rassa, vainqueur de Gourgueul, sa première Coupe du Monde. podium aussi à Madonna cette semaine, c'était mercredi. Il va falloir lui aussi allumer du verre, il est en forme, il skie bien, c'est des conditions aussi qu'il apprécie, c'est de la glace sous les spatules. 3 dixièmes d'avance sur le haut de cette première manche pour Paco Rassa, 3 dixièmes donc d'avance sur Henrik Kristoffersen, le Norvégien. Et on rappelle, hein, Clément Noël est déjà passé, il est quatrième provisoire. Allez Paco, le skieur des Aillons qui réalise une superbe saison, qui est l'un des porte-étendards aussi de ce slalom français. 23 centièmes toujours d'avance pour Paco Rassa. Il skie intelligemment bien, il va arriver dans ce mur, c'est une piste aussi lui qu'il aime bien, Adel Boden. Allez Paco Rassa, il faut allumer du vert, jusqu'au bout. Il a 23 centièmes d'avance, attention, allez 2 dixièmes d'avance toujours pour le français, pour Paco Rassa. S'il arrive à prendre la tête, ce serait fabuleux, mais il perd du temps parce qu'il sera assez large, il se fait secouer un petit peu sur certaines portes. Allez Paco, faut aller jusqu'au bout, il faut essayer d'aller se placer, et il va se placer les 3e avec presque 4 dixièmes de retard. 3e Paco Rassa, et donc Clément Noël 5e.
C'est dommage, mais franchement il a fait forte impression quand même quasiment sur tout le parcours de ce slalom, et il perd du temps sur une porte alors qu'il était en tête, il était devant tous les autres, et là avec 36 centièmes de retard, tout est jouable évidemment pour la deuxième manche. Il est en totale confiance, Paco Rassa.
Ça va jouer le podium, ça c'est sûr, et la victoire.
Mais en tout cas on est là quand même, hein. Ils sont dans la lutte, on attend la deuxième manche tout à l'heure, et on attend Steven Amier dans quelques instants. On a 26 jours des JO d'hiver à Annecy en mode olympique, déjà forcément. On était avec David Douillet en mode olympique aussi, toujours en mode olympique, David qui a pris le brassard de capitaine.
David qui quand même possède une piste à son nom.
Ah bon?
Bah oui. Dans la station des Ménuires, il y a la piste noire David Douillet quand même. Ça, ça vous pose un homme. Hein.
C'est
piste
vrai,
rouge.
Piste noire, rouge. Excuse-moi, je croyais qu'elle était noire.
Non. La ceinture judo qui est noire chez David, pas la piste.
Ah ouais, d'accord, c'est la classe. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent j'ai descendu là, David.
La Douillet.
J'ai descendu la Douillet.
Je me suis fait la Douillet.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est ma station de cœur, hein, les Ménuires, évidemment. Pour ça que. Et quand je vais là-bas, je suis assis dans les télésièges, puis t'as des gens qui sont à côté, et quelquefois, quand il n'y a pas suffisamment de neige, ils râlent, ils me reconnaissent, et puis ils me disent, dites donc, faudrait faire quelque chose, là, en bas de la piste, il y a tel virage, il y a des cailloux, genre, c'est moi qui fais l'entretien de la piste, tu vois. C'est incroyable.
C'est pas
trop
toi
drôle,
qui fais l'entretien de la piste? Parce que je trouve que tu es pas.
Eh non, malheureusement, non. Si tu veux. C'est vrai que mon style de ski pourrait s'apparenter à un rétrac, mais bon, ça va, quoi. Je fais ce que je peux, quoi.
Bon, tu fais ce que tu peux, tu le fais quand même.
Il fait tout bien, David.
Il fait tout bien, bien sûr.
C'est un acteur en devenir, déjà.
Déjà, bien sûr. On est à Adel Boden, évidemment, sur le ski alpin en Suisse pour le slalom masculin. La première manche ce matin. Voilà, deux Français sont déjà passés. Clément Noël et également le Français Paco Rassa, il y a quelques instants. Pour l'instant, c'est Henrik Kristoffersen, le Norvégien, qui est aux commandes. Rassa 3e, Clément Noël est 5e. Un autre Français se présente au départ, on le connaît bien. C'est le fils de Sébastien Amier, notre consultant. Steven Amier, toujours à la recherche de son premier succès en Coupe du Monde, Léna Marjac.
Oui, toujours à la recherche de ce podium, de cette victoire en Coupe du Monde. Il a fini 6e l'an dernier, ici à Adel Boden, sur cette piste suisse. Et on l'entend, hein, ses supporters. Il y a beaucoup d'ambiance, forcément, en Suisse. Et Bastoud qui a fait la route très tôt ce matin pour être au départ de la première manche et de voir son fiston sur les pistes. Allez, aujourd'hui Steven. Allez Steven, c'est parti donc pour le Français, le skieur de Courchevel. Un petit centième de retard sur le premier temps intermédiaire. Il a souvent l'habitude de skier assez dur, assez perdre du temps, et là il va falloir essayer de skier intelligemment sur cette piste. C'est des conditions qu'il aime, c'est de la glace. Il le disait depuis le début de la saison, il n'avait pas retrouvé ces conditions là et aujourd'hui c'est le cas. Les 17 centièmes de retard pour Steven. Allez, sur cette piste. Pour l'instant il est effectivement au contact d'Henrik Kristoffersen, le Norvégien, qui est toujours en tête de cette première manche. Pas de grosse erreur pour Steven. Attention un petit peu là, il est descendu un peu large sur cette porte, dans le mur de la piste d'Adel Boden. Allez Steven, 4 dixièmes de retard au troisième temps intermédiaire. Il va passer les dernières portes avant de passer la ligne d'arrivée. Il faut réussir à se placer comme Paco et comme Clément, mais il manque un petit peu de vitesse, Steven, sur la fin de parcours. Et il est à 7 dixièmes de retard. Il est donc 8e provisoire, et je vous le rappelle, Paco Rassa est 3e. deuxième, Clément Noël cinquième et donc Steven huitième.
Allez, les Français peuvent avoir des ambitions. On prend le deuxième manche tout à l'heure à 13h30. Nos mousquetaires du slalom. Bon les amis, on est dans les grandes gueules du sport. Hein, on revient évidemment, on est un peu en mode olympique, vous le savez, on est à moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver. Tiens, juste rapidement, David Douillet disait porte-drapeau, c'est quand même une sacrée responsabilité. Rapidement, Fred, Ménette, vous auriez aimé être porte-drapeau?
Moi, je signe tout de suite. Alors, j'avais pas le talent et la capacité de le faire comme David Douillet, mais si j'avais pu le faire, j'aurais fait tout de suite. Il a pas réussi à me convaincre du contraire.
Ménette?
Non, c'est une chose magnifique, je trouve, d'être porte-drapeau pour
ça marque l'histoire, ça marque l'histoire, en fait.
Non, je comprends ce qu'il dit, David. Il faut faire attention à tous les à côté, mais c'est quand même quand t'es choisi pour être porte-drapeau, c'est pas rien, quoi.
Ah, non, c'est
ça veut dire que tu représentes quelque chose dans le sport français.
Effectivement, mais il y a la pression peut-être aussi derrière de devoir faire un résultat. Souvenez-vous, Tony Estanguet, notamment à Pékin, ça s'était pas forcément bien passé pour lui. Bon, et puis à Londres, ensuite, 4 ans plus tard, il a été champion olympique à nouveau. Allez, les grandes gueules du sport reviennent alors que Christophe Cessieux me montre une photo de David Douillet, porte-drapeau.
Ouais, j'étais dans le stade à Sydney,
la grande classe.
Il est passé devant moi, David, avec son drapeau.
Ah, c'est une photo à toi.
C'est incroyable.
Une photo que
j'ai faite.
T'étais déjà un Instagrammeur à l'époque, Christophe, toujours en son temps. C'est incroyable.
Tu l'envoies à Christophe.
Allez, les GG remontent le temps.
Je l'ai pas envoyé déjà, je vais
les GG remontent le temps, justement. Bon, on est en plein dans le sujet. Tout de suite, on remontera pas à Ciné 2000 pour revoir David Douillet avec le drapeau, mais on va remonter il y a 10 ans. Zizou, entraîneur, pour la première fois en pro avec le Real. Est-ce qu'il est encore approuvé comme entraîneur? Participez avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport. Dans un instant, le vestiaire des GG. On va parler du danger de pousser son corps jusqu'à la limite. On va vous donner quelques exemples qui nous ont inspiré ce vestiaire. On a évidemment un œil aussi sur la première manche du slalom masculin à Adelboden. Pour l'instant, nos Français sont placés sur cette épreuve avec notamment Paco Rassa qui est quatrième et Clément Noël sixième. Deuxième manche à suivre tout à l'heure à 13h30. Mais d'abord, les GG remontent le temps. Il y a 10 ans, Dieu s'asseyait sur un banc.
Le rôle d'un entraîneur, c'est d'avoir des résultats. Et ce sera la même chose pour moi. Je vais essayer d'apporter ma touche offensive, essayer de garder ce que j'ai toujours fait comme joueur.
C'était grandiose. J'ai cru un moment que l'on marquerait 8 buts, mais 5, c'est déjà énorme. Il y a vraiment eu un changement. Zidane est le meilleur.
On peut toujours s'améliorer sur beaucoup de points, mais ce soir, j'ai envie de savourer ce que l'équipe a fait contre une équipe qui est compliquée à jouer.
Il y a 10 ans, 9 janvier 2016, Zizou dirigeait le Real Madrid pour la première fois face à la Corogne, victoire 5-0. Bon début, Zizou. 5 mois plus tard, il remportait la première de ses 3 Ligues des Champions à la tête des Merengues. Il a aussi décroché 2 Ligas. Il n'entraîne plus depuis 2021, je rappelle quand même. Alors que son nom est en tête de liste pour reprendre les Bleus après la Coupe du Monde, je vous pose cette question ce matin. Zidane a-t-il encore à prouver comme entraîneur? Fred Weiss?
Oui.
Christophe Cessieux?
Oui.
David Douillet?
Oui.
Et Julien Benneteau?
En tant qu'entraîneur, non, mais en tant que sélectionneur, oui.
Ben vas-y, développe, dis-nous.
Ben, on l'attend maintenant. En tant qu'entraîneur, il a gagné avec le... Il peut entraîner qu'au Real. Je pense que s'il avait voulu entraîner ailleurs, un club, la Juve l'avait certainement sondé à un moment donné. Il a refusé pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. En Angleterre, j'imagine que c'est un grand club comme United ou... peut le sonder. On a l'impression qu'il peut entraîner qu'au Real. Donc voilà, maintenant on l'attend quand? On l'attend quand il va prendre la suite de Deschamps. On l'attend en tant que sélectionneur, c'est son rêve, c'est ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a refusé certaines sollicitations pour être prêt et disponible pour l'équipe de France. Donc on verra en tant que sélectionneur une fois la Coupe du Monde aux États-Unis terminée. Donc maintenant c'est en tant que sélectionneur qui va devoir prouver.
Mais je suis pas d'accord avec toi justement par rapport à tes arguments. Tu viens de le dire, il peut entraîner qu'au Real, donc ça veut dire que il a rien prouvé finalement. Il a prouvé au Real, il a fait des choses extraordinaires, c'est incroyable, mais dans un contexte différent qui serait peut-être moins favorable, on ne sait pas en fait.
Bien sûr, je pense qu'il n'a pas envie en fait.
Ouais, alors certainement.
Il n'a pas envie parce qu'il n'a pas envie de se mettre en danger.
Mais c'est un peu le ressenti qu'on a aussi.
Parce que quand même, quand il est arrivé au Real, il avait dans son effectif Ramos, Modric, Benzema, Ronaldo. Il y a certains, j'en fais pas partie, mais certains qui à l'époque disait avec un tel effectif N'importe qui aurait pu remporter la Ligue des Champions.
Je suis d'accord avec toi, je suis pas parti de cela non plus.
Je pense que c'est exagéré. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir se mettre en danger dans un autre club, avec un effectif peut-être un peu moins prestigieux, et montrer ce qu'il a vraiment dans les tripes et si son sens tactique, son sens offensif aurait pu marcher avec des joueurs un peu moins mythiques.
Donc il aurait tout à prouver, justement, en allant ailleurs. En plus, il faut se rendre compte quand même que le football, le sport en général, évolue extrêmement rapidement. Ça fait quasiment 5 ans qu'il n'entraîne plus. Donc pour moi, il repartirait quasiment de zéro. Et en plus, s'il n'était pas dans le contexte favorable du Real, pour moi, ça serait un vrai enjeu. Mais je ne peux que rejoindre Bennett. Évidemment, comme sélectionneur, il a forcément tout approuvé. Et en plus, il est vraiment très dépendant des résultats de la Coupe du Monde. Parce que si Deschamps te fait une énorme perf et qu'on est champion du monde, courage pour prendre le relais.
David, tout zizou qu'il est, il doit prouver comme sélectionneur.
Ouais, et je pense que c'est fondamentalement son mindset, c'est sa philosophie. Ouais, tout à l'heure vous avez dit
sous philosophie sur un banc.
Ouais, voilà, sous philosophie. Dieu s'est assis sur un banc. Je suis désolé, mais Zizou, il sait d'où il vient, il connaît sa vie et il a eu un parcours qui était pas si simple que ça. Aujourd'hui, on s'accorde tous pour dire que ça a été l'un des plus grands joueurs que la planète ait porté. Mais au départ de sa carrière, il avait pas forcément les plus grandes cartes. Il a dû beaucoup travailler. Son don, il a su l'exploiter à un moment donné. Il avait pas forcément les données physiques les plus favorables à l'époque. Il est même peut-être, ça sera un autre débat, si on prenait un Zizou aujourd'hui par rapport aux caractéristiques physiques recherchées dans le monde du foot par les clubs, est-ce que Zizou aurait sa place? Qu'est-ce qu'il aurait été remarqué, etc.
Il aurait été
à un moment donné par son talent, mais tu vois, par ses qualités physiques.
Il a quand même une grosse qualité d'habitude.
Non, mais il a déjà montré.
Il parle d'une question, il va sur autre chose.
Non, mais il a montré, il veut dire ses qualités de résilience, à survivre dans un milieu hyper concurrentiel.
Je voulais expliquer tout ça pour dire que, qu'il soit dans un grand club ou dans un petit club, je suis convaincu qu'il aurait su, parce qu'il a vécu ça, exploiter les qualités, même si elles sont moindres, de n'importe quel joueur. C'est-à-dire que Dieu, tu l'as soit au Real, tu l'as soit à Bourg-en-Bresse, eh ben, il en fait une grande équipe. J'en suis convaincu. Donc pour moi, ça, c'est un challenge. Oui, t'as toujours à prouver en tant qu'entraîneur, parce que dès que tu changes d'effectif, tu changes d'équipe, tu repars de zéro.
Oui, c'est
la vie d'un entraîneur.
Et du sport de haut niveau.
Même de l'entraîneur.
C'est la remise en cause en permanence.
Exactement. Donc oui, tu as toujours besoin de prouver.
David Douillet.
Évidemment que tu as besoin de prouver.
Ouais, non, il ne veut pas y aller.
J'aimerais bien le voir à l'OM.
Ce serait magnifique.
Il a joué.
Moi, je retiens. Et avec un effectif moindre, etc. Après, quand vous dites, il a, avec cet effectif, etc., il a quand même gagné trois fois la Ligue des
Champions. Non, mais justement,
Guardiola, Ancelotti.
L'ont pas fait.
Bennett.
Klopp, Sacchi et compagnie, l'ont pas fait.
Nous, on pense pas ça. On dit juste qu'il y a certains qui l'ont pensé. Non, clairement. Et je me rends compte quand même que David Douillet était un technocrate, parce qu'à la fin de sa réponse, tu te rappelles plus la question que tu as posée.
Exactement. Mais c'est là où il est fort. Il a été ministre, faut pas l'oublier.
Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il a presque, il a un vœu qu'il a à peu près dit, c'est qu'il aimerait bien voir Zizou entraîneur à Bourg-en-Bresse.
Exactement. Julien, tu peux pas retenir ça quand même.
Et si ça arrive, vous l'aurez entendu en premier. Ici, dans les grandes gueules du sport.
On aura quand même le président et l'entraîneur de Bourg-en-Bresse en la personne de David Douillet et de Julien Benneteau.
Oui,
il y aurait quelques caméras sur place, hein, je pense, pour couvrir l'événement. Allez, les GG du sport, on revient dans un instant pour le vestiaire. On va parler des dangers de pousser le corps jusqu'à la limite. Et puis, à la fin de l'émission, est-ce que ça a du sens de comparer les époques en sport? C'est un sujet qui a beaucoup animé les réseaux cette semaine. Allez, on revient dans un instant avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.